France Musique. Musicopolis. Daphnis et Chloé de Ravel, un ballet grec habillé à la russe. Il est des modes qui restent, d'autres qu'on oublie, ou dont on se rappelle juste par un quelque chose qui en est resté. Par exemple, il y a eu autour des années 1910 une mode Daphnis et Chloé. Mais on ne s'en souvient de nos jours que grâce à la musique de Ravel. À la fin des années 1900 à Paris, on trouve des Daphnis et Chloé partout. Par exemple, ce sont les personnages principaux du drame pastoral Daphnis et Chloé, musique de Fernand Le Borne, donnée en 1908 à Aix-les-Bains avec un gros succès et qui sera à l'affiche du théâtre du Trianon Lyrique à Paris tout l'hiver 1909-1910. La même saison, l'Olympia présente sa grande revue. 150 artistes, 600 costumes, 27 tableaux, dont un Daphnis et Chloé du plus bel effet. Et je peux vous citer aussi, toujours en 1910, le concert des élèves du conservatoire avec le chœur des nymphes du Daphnis et Chloé de Bauer, ou encore l'exécution intégrale de Daphnis et Chloé, opéra comique de Henri Maréchal, sous la direction de l'auteur. N'est pas la seule capitale où on s'intéresse à Daphnis et Chloé. À Saint-Pétersbourg, en 1907, Mikhaïl Fokin, premier danseur et maître de ballet du théâtre Mariinsky, propose au directeur des théâtres impériaux un scénario en deux actes sur ce thème, en espérant qu'un compositeur sera commandité pour en écrire la musique. Fokin a beaucoup lu sur l'art de l'Antiquité et il est plein d'idées sur les décors et les costumes. Il cherche avant tout la vérité historique et il veut se rapprocher des tragédies de Sophocle et d'Euripide. Le projet est refusé par le directeur des théâtres impériaux, mais Fokine y tient. Il le reproposera, cette fois à Diaghilev, lorsqu'il sera engagé dans la troupe des ballets russes en 1909. Au printemps 1909, a lieu à Paris la première saison russe montée par l'impresario Serge Diaghilev avec une troupe recrutée à Saint-Pétersbourg. Une saison très tournée vers l'opéra russe, Glinka, Moussorgski, Rimski-Korsakov, Serov, etc. Parmi les opéras, on remarque quelques ballets avec des arrangements de morceaux d'orchestre façon Gloubi-Boulga symphonique. quelques critiques avisées conseillent à Diaghilev de commander de la musique à un compositeur français pour la saison 1910. Fauré et Debussy ayant refusé, l'impresario, avisé lui aussi, s'adresse à Ravel. Ravel accepte le livret de Fokine. Ses biographes supposent qu'il a alors besoin d'argent. En juin 1909, Ravel écrit à une amie « Il faut vous dire que je viens de passer une semaine folle, préparation d'un livret de ballet destiné à la prochaine saison russe. À peu près tous les soirs, travaille jusqu'à 3 heures du matin. Ce qui complique les choses, Fokine ne sait pas un mot de français. Je ne sais que jurer en russe. Malgré les interprètes, vous imaginez la saveur de ces entretiens. » En fait, Ravel ne semble pas totalement passionné par la commande de Daphnis et Chloé. Et puis la première saison des ballets russes a été un tel fiasco financier qu'on n'est même pas sûr que Diaghilev revienne. Notre compositeur ne se presse donc pas. En mai 1910, alors que la deuxième saison russe va finalement avoir lieu, il n'a achevé qu'une version pour piano de son Daphnis. Trop tard pour le programmer ce printemps. Mais Diaghilev voulait vraiment un nouveau ballet. Par conséquent, il s'est adressé à un jeune russe inconnu, Igor Stravinsky, qui lui compose « L'oiseau de feu ». Ballet qui séduit immédiatement les musiciens français, Ravel le premier. Il écoute de toutes ses oreilles. Ravel ne chôme pas, mais il peine toujours à se mettre à son Daphnis. Il n'a pas une totale confiance en Diaghilev, il n'est pas non plus très en phase avec la vision antiquisante de la Grèce que voudrait faire passer Fokine. Et puis, il a d'autres projets en route et beaucoup de travail avec la création de la toute nouvelle société musicale indépendante dont il s'occupe énormément. Il orchestre tout de même quelques morceaux de la partition pour piano qu'il a terminée en 1910, trois morceaux avec chœur, qui sont donnés lors d'un concert de l'orchestre Colonne en avril 1911. D'ailleurs, Diaghilev n'est pas très content, il aurait voulu l'exclusivité. Dans Le Figaro, le critique Robert Brussel souligne que Daphnis et Chloé est destinée à être un ballet et que, en concert, si savoureuse qu'elle soit, affirme-t-il, sa musique ne nous est pas apparue avec son épanouissement complet. Il est souhaitable qu'elle nous soit restituée prochainement dans sa forme totale. Néanmoins, le critique a jugé que le nocturne et l'interlude étaient parmi les pièces les plus réussies de leur auteur, pleines de suavité pénétrante, d'une souplesse harmonique très rare. Il admire le pittoresque ajouté par les voix, qui donne un accent extrêmement saisissant. La danse guerrière, selon le critique, est le morceau qui souffre le plus de l'absence des danseurs et de leur expression plastique. On voit, en l'entendant, la manière prodigieuse dont l'exécuteraient les interprètes ardents du ballet russe. Même si Ravel a orchestré trois numéros de son Daphnis et Chloé et les a fait entendre en concert en avril 1911, le ballet complet n'est pas prêt pour la saison russe de cette année-là. Et une deuxième fois, Diaghilev s'est adressé à Stravinsky, qui cette fois-ci lui a donné Petrouchka. À présent, il n'y a plus moyen de reculer. Si Stravinsky a produit deux ballets pour l'impresario, Ravel doit s'y mettre à son tour pour la saison 1912. Ceci dit, il n'est pas resté sans rien faire. Il vient même de produire deux ballets, lui aussi, en orchestrant et agrandissant des œuvres pour piano. Mamerloi pour le Théâtre des Arts, créé fin janvier 1912, et Adélaïde ou le Langage des Fleurs, orchestration de ses valses nobles et sentimentales, créée en avril au Théâtre du Châtelet. Mais avec tout ça, on dirait qu'il trouve la Grèce antique de Fokine bien loin de ses préoccupations et un peu désuète à côté des saveurs russes de Stravinsky. La Grèce de ses rêves, à lui, est plus proche de celle des artistes français du XVIIIe siècle que de l'Antiquité. En mars 1912, Le Figaro informe ses lecteurs. La grande saison de Paris nous ramène cette année, du 10 mai au 10 juin, 10 programmes magnifiques de ballets russes présentés sous la direction de M. Serge de Diaghilev. Le journal détaille les reprises de ballets des saisons précédentes et annonce la création de plusieurs ballets français. Le Dieu bleu, musique de Reynaldo Hahn, le prélude à l'après-midi d'un faune, de Bussy, enfin Daphnis et Chloé. Ravel termine son orchestration début avril. Les Russes n'arrivent que début mai, c'est tard pour entamer les répétitions d'un ballet d'une heure, dont la chorégraphie n'est pas encore tout à fait prête. Il y a pas mal de bisbilles au sein de la troupe des ballets russes. Diaghilev privilégie son favori, le danseur Nijinsky, aux dépens du chorégraphe Fokine. Rien ne va plus. On entend de furieux éclats de voix en russe pendant les répétitions. Et puis Diaghilev n'aime pas beaucoup ce que Ravel a fait de Daphnis. Il songe même un temps à supprimer le ballet, puis finalement il retarde la création de manière à ce qu'il n'y ait plus que deux représentations. Ravel est furieux. Mais enfin, le 8 juin 1912, le rideau se lève sur le décor de Bakst. Ravel est déçu, certes. Deux représentations seulement de son Daphnis et Chloé, et sans doute pas exactement ce qu'il aurait souhaité comme chorégraphie. Mais globalement, les critiques sont bonnes. Pour Robert Brussel, toujours, du Figaro, c'est l'œuvre la plus poétique et la plus accomplie présentée par Diaghilev, parfaitement de son temps, qui joint sentiment et poésie à la légèreté, à la grâce et à l'imprévu du rythme, à la saveur d'une instrumentation toujours significative. On est pénétré d'une manière non point agressive ou hautaine, mais infiniment douce et fraîche et tendre, comme il convenait pour un tel sujet. Quant à Fokine, le chorégraphe, il a peut-être imaginé des tableaux plus surprenants, il n'en a jamais suscité de plus délicat ni de plus expressif. le Gaulois, Louis Schneider trouve que la musique de Daphnis et Chloé est tellement étrange par ses combinaisons symphoniques et polyphoniques, par la complication de son orchestre, par sa recherche instrumentale, que l'œuvre vous saisit, vous trouble, vous stupéfie. Pierre Lalot, dans Le Temps, lui, est bougon. Il trouve qu'il manque à la musique de Ravel ce qui est la première qualité d'une musique de ballet, le rythme. Selon lui, il émane de l'ensemble on ne sait quoi de terne et de monotone. Il lui semble que Ravel perd ici son adresse infaillible, l'art de réaliser exactement ce qu'il avait voulu. Laissons le dernier mot au chroniqueur de Comédia. « Étrange soirée », écrit-il. Maurice Ravel, pâle comme toujours, souriant comme toujours, charmant, moqueur et gavroche comme toujours, passe. On le suit des yeux. N'est-ce pas la musique française la plus neuve, la plus puissamment neuve qui passe avec lui, qui s'installe avec lui dans une loge bondée où se tasse, derrière les vénérables cheveux de la mère émue et glorieuse du musicien, Florent Schmitt, Igor Stravinsky et Maurice Delage. La jeune musique française est saluée triomphalement en la personne de Ravel, que l'on demande à la rampe et qui, à la française, ne vient pas. C'est un événement qui s'est passé ce soir. On pense à la première de Pelléas et Mélisande. Quelqu'un me répète, en sortant, le cliché de cette année. C'est du grec habillé à la russe. Quelqu'un répond, imbécile. Danse générale, la fin de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, avec le chœur Aïdès, l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Benjamin Vignal pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et Élise Kravets pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.